Chapitre 21. Les trois naufragés campèrent dans un bosquet de cyprès. Au cours de la nuit, le vent tomba, permettant un épais brouillard de tout envelopper. En dépit d'un petit feu de camp, Nathan et ses compagnons grelottèrent sous les assauts de cette purée de pois humide et froide. Malgré le soutien magique de Nietzsche, les flammes ne réussirent jamais à les réchauffer. Tant qu'elle était en état de fonctionner, la magicienne ne se souciait pas de son confort. Une disposition d'esprit héritée de son ancienne vie. Du coup, être naufragé sur une côte inconnue ne la perturbait pas vraiment. Grâce à la pyramide, sa destination finale, Koh Lader, était en quelque sorte confirmée. Mais combien de temps allait-il falloir marcher avant de trouver un village ou une ville? Si désolée qu'elle soit, ces terres, se souvint Nietzsche, appartenaient à l'Empire d'Aran. En les explorant, elle tenait la promesse faite à Richard, pour qui elle serait allée au bout du monde à genoux s'il le lui avait demandé. Mais s'ils ne trouvaient pas un endroit habité, Nathan et elle ne pourraient pas continuer leur quête. À l'aube, la magicienne cessa d'alimenter magiquement le feu inutile. « On devrait partir. Voilà qui nous réchauffera. » Entêté, Nathan prit son peigne et s'attaqua à ses cheveux en bataille.
« Je me demande si courir serait suffisant, »
marmonna-t-il. Morose, il baissa les yeux sur sa chemise dévastée.
Je n'avais jamais mesuré à quel point je me fiais à mon don. Les jours cauchemardesques comme celui-ci, un petit sort suffisait à me tenir chaud.
Nietzsche s'empara de son paquetage.
En marchant, nous n'aurons pas plus froid et au moins nous couvrirons de la distance.
Front plissé, Bannon sonda le brouillard.
On risque de ne pas voir où on va,
dit-il en frissonnant.
Eh bien, fit Nietzsche. On le saura en y arrivant.
Nathan remit son précieux livre de vie en place et referma sa sacoche.
Aujourd'hui, je doute de pouvoir ajouter des détails à ma carte.
Guidés par le fracas des vagues contre les rochers, ils se remirent en marche, sûrs d'être assez loin du bord de la falaise pour ne rien risquer.
J'ai moins peur de tomber d'une falaise que d'atteindre le bout du monde, dit Bannon. Là, on dit qu'une chute dure jusqu'à la fin des temps.
Nathan fronça ses sourcils broussailleux.
« Tu crois que nous trouverons le bout du monde, fiston ?»«
J'ai vu des cartes qu'il représente, oui. »«
Eh bien, si nous y arrivons, nous saurons que nous avons atteint les limites de l'empire du seigneur Ral. »
Nietzsche n'était pas du genre à gloser sur de telles spéculations.
« Si ça arrive, dit-elle, nous ferons demi-tour et nous explorerons dans une autre direction. »«
J'espère que nous aurons trouvé Koh Lader avant ça, »
lâcha Nathan.
Bannon n'insista pas. Depuis l'épisode des violettes tueuses, il n'en menait pas large.
Avant de toucher son enthousiasme ce jour-là, Nietzsche avait remarqué dans ses yeux une lueur inquiétante. Ce garçon s'amourachait d'elle, et il ne pouvait pas y avoir de sentiment plus mal placé, surtout quand on avait déjà une imagination hyperactive. Nathan aimait bien son jeune disciple. Malgré leur différence d'âge, un bon millénaire quand même, ils avaient beaucoup de points communs, dont une certaine forme de naïveté convenait in petto le vieil homme. Peu à peu, le brouillard commença à se dissiper, mais il fit encore plus froid.
« On devrait avancer dans la forêt où les arbres nous protégeraient, » dit Bannon, de plus en plus glacé.
Nietzsche secoua la tête et continua d'avancer d'un pas martial, comme si la distance était un ennemi à vaincre.
« Près de la côte, nous aurons plus de chances de découvrir un port ou l'estuaire d'un fleuve, et sans brouillard, nous y verrons très loin devant nous. »
Nathan marchait la tête baissée, histoire de repérer des baies, des oignons sauvages ou des nids d'oiseaux. Comme d'habitude, Bannon prit la tête de la colonne. Le vent tombant de nouveau, le brouillard redevint plus dense, et Nietzsche perdit de vue le jeune homme jusqu'à ce qu'il revienne vers elle. L'air toujours aussi penaud, il sourit quand même, la première fois depuis son fiasco avec les violettes tueuses.
« Pour toi, magicienne, » dit-il en tendant à Nietzsche un bouquet de lilas. « J'espère que tu aimeras mieux ces fleurs-là. »
Nietzsche ne se laissa pas démonter.
« Mais j'ai apprécié ton cadeau, Bannon. Ne t'ai-je pas décrit en détail ses nombreuses utilisations ?»«
Ce bouquet-là est seulement joli, » insista Bannon. « Des lilas sauvages, on en trouve partout sur Shiria. Une fois cueilli, il ne dure pas longtemps, mais je voulais t'en offrir. »
Voyant que Nietzsche n'acceptait pas son cadeau, le jeune homme se rembrunit.
« Tu n'aimes pas ces fleurs ?»
Nietzsche admettait volontiers que Bannon Farmer, un garçon futé, s'était remarquablement bien battu contre les Selkas. tant qu'il promettait d'être utile ou ne menaçait pas d'être un boulet, elle ne le chasserait pas. En outre, il existait en ce monde de bien pires compagnies, mais elle devait étouffer dans l'œuf ses sentiments absurdes. La veille, comprit-elle, sa réaction face aux violettes tueuses n'avait pas suffi. Si elle ne se montrait pas ferme, un jour ou l'autre, il faudrait qu'elle tue Bannon. Sous les tentes, elle avait dû passer des semaines à assouvir les désirs bestiaux des soldats de Jagang. Sans parler des jours où l'empereur la prenait pour compagne, s'amusant souvent à la battre comme plâtre. Après ses expériences tordues de l'amour, elle s'était éprise de Richard Rall, où elle l'avait cru, ce qui au fond revenait au même. À l'époque, elle était une sœur de l'obscurité corrompue par ses liens avec le gardien et sa soumission à Jagang. En essayant de donner corps à sa passion maladroite pour Richard, ce simulacre de vie maritale qu'elle lui avait imposé, elle s'était attiré sa haine. Au fil du temps, elle avait appris sa leçon. Après avoir tué Jagang, elle s'était mise au service de Richard, à sa façon. Bien entendu, elle l'aimait vraiment. Le seul homme qu'elle pouvait aimer, en fait. Mais il s'agissait d'une autre forme d'amour. Uni à Callan, Richard l'estimait et la respectait, mais il ne la regarderait jamais comme une femme. Fidèle à sa passion, elle avait décidé de conquérir l'ancien monde pour lui, à elle seule, s'il le fallait. Dans ce contexte, elle n'avait pas de temps à perdre avec un jeune aventureux qui la trouvait jolie. Bannon rayonna quand la magicienne parut vouloir saisir les fleurs. Mais elle lui prit le poignet et, serrant très fort, lui expédia dans le bras un flux de pouvoir qui lui fit l'effet d'un millier de piqûres d'aiguilles. Les yeux écarquillés, il ouvrit grand la bouche, mais Nietzsche ne lui laissa même pas le temps de crier.
« Je te permets de rester avec nous parce que Nathan t'aime bien. En plus, tu pourrais nous être utile, mais écoute ce que je vais te dire. Je ne suis pas une écervelée de village qui espère se faire voler un baiser. »
Des crampes douloureuses dans les mains, Bannon laissa tomber ses fleurs et Nietzsche ne leur accorda même pas un regard.
« Je suis désolée, magicienne. Pardon. »
Nietzsche ne lâcha pas tout de suite le poignet de Bannon. Il fallait lui enfoncer cette idée dans le crâne afin que le problème ne se repose pas.
« Nous avons de gros ennuis, Bannon. Pour continuer notre mission, nous devons savoir où nous sommes. Si tu me mets des bâtons dans les roues, je n'hésiterai pas à t'écorcher vif. »
Bannon regarda Nietzsche avec le mélange de terreur et de désarroi qu'elle espérait. Très vite, tout ça se transformerait en respect, et elle n'aurait plus à se soucier de ses bêtises. Quand elle lui lâcha le poignet, Bannon le secoua vigoureusement pour chasser la douleur.
« Mais je pensais seulement... » Nietzsche ne voulait pour rien au monde souscrire à la vision du monde angélique du garçon, et elle se fichait comme d'une guigne qu'il se languisse de son île à moitié imaginaire. « J'ai entendu les histoires que tu te racontes. Pas question d'entrer dans les rêveries débiles d'un gamin. Ton monde parfait m'indiffère. Tu saisis, petit ?»
Bannon se rembrunit, comme si la magicienne venait de toucher une plaie à vif.
« Ce n'était pas un monde parfait. Jamais. »
Le rouge au front, Bannon se tourna vers Nathan, qui le regardait avec une compassion inhabituelle chez lui. Quand il posa une main amicale sur l'épaule du jeune homme, Nietzsche ne jugea pas utile de s'en mêler.
« Il vaut mieux que tu comprennes les choses, fiston. On l'appelait la maîtresse de la mort. N'oublie pas ça. »
Défait, Bannon s'éloigna.
« Je n'oublierai pas. C'est sûr maintenant. »
Lentement, il s'enfonça dans le brouillard.